Donc, frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à prendre le texte qui se trouve dans Genèse chapitre 13. La semaine dernière, j'avais déjà lu ce passage et nous avons vu que la confiance en Dieu apporte la paix. Nous parlons d'Abraham qui a mis sa confiance en Dieu lorsqu'il a entendu cette bonne nouvelle. Lorsque le Seigneur lui a dit que toutes les nations de la terre seront bénies, et donc il est parti, il a mis sa confiance en Dieu, et dans le chapitre 13, nous avons vu dans un premier temps qu'il était important pour lui d'être en paix avec son neveu, avec les serviteurs qui étaient là, et qui commençaient à se quereller parce qu'il n'y avait pas assez de pâturage pour les animaux. Et nous avons vu un premier temps que pour Abraham, qui avait trouvé la paix avec Dieu, il était important qu'il vive aussi en paix avec Lot, son neveu, qui dit nous sommes frères. Et aujourd'hui, j'aimerais toujours reprendre ce passage et vous dire aussi que lorsqu'on met sa confiance en Dieu, la confiance en Dieu apporte aussi la confiance en l'avenir. Et c'est vrai que lorsque notre frère il a introduit ce culte, il a parlé justement des difficultés que nous rencontrons en ce moment. Nous sommes dans les derniers temps, et encore plus maintenant que du temps de l'apôtre Paul. Et il est important que nous ne soyons pas perturbés par ce qui se passe. Bien au contraire, sachez que si vous avez mis votre confiance en Dieu, le Seigneur vous assure aussi un avenir. Alors, j'aimerais que nous lisions ensemble ce texte de Genèse chapitre 13. On va relire à partir du verset 5. Il est dit, Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, car parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Vous savez, dans ce texte, nous voyons que tout comme Lot, Abraham, il a vu donc toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il n'y a pas que Lot qui ait vu que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Abraham l'a vu aussi. Mais donc, comme ils ne pouvaient plus rester ensemble, Abraham laisse à Lot le soin de choisir où il voulait aller. Et cela montre qu'il ne cherchait pas son propre intérêt. Et donc, il dit à Lot, voilà, choisis. Lot, il aurait pu dire à son oncle, non, non, mon oncle, c'est à toi que revient le droit de choisir en premier. C'est toi, choisis et puis moi je prendrai. Non. Donc, Lot, il a suivi. Il va vite s'emparer de... s'empresser de voir et de choisir pour lui la partie qui était le plus verdoyant pour ses animaux. Dans ce texte, il est parlé de choix. Le choix de Lot, mais aussi le choix d'Abraham. Déjà, qu'est-ce qui a influencé le choix de Lot? Déjà, son attirance pour ce qui frappe les yeux, le verset 10, il est dit que Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Lot leva les yeux. Cette plaine était, il est dit, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, pour dire comment c'était très, très, très riche, très fertilisé. Et donc, il dit, là, c'est bon pour mes animaux et pour moi. Donc, Lot s'est laissé influencer par ce qui frappe les yeux sans se soucier des conséquences. Mais les conséquences, finalement, il ne les connaît pas. Les conséquences, c'est dans le futur qu'il va voir quelles seront les conséquences. Ces conséquences seront, il va le voir dans un avenir proche et même aussi dans un avenir éloigné. Et c'est l'auteur donc, de la Genèse, Moïse, qui raconte cela et qui ajoute, il dit que Dieu allait détruire Sodome et Gomorre. C'est lui qui dit que les gens de Sodome étaient de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais Lot ne savait pas. Il voit cette vallée fertile et il dit, moi je vais y aller. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, non seulement il se laisse attirer par ce qui frappe les yeux, mais aussi parler de son égocentrisme. Au verset 11, il est dit que Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Il a choisi pour lui. Il a d'abord pensé à lui, sans se soucier de son oncle. Ce qui importait pour lui, c'était d'avoir la meilleure part. Il a cherché en premier son propre intérêt, et tant pis pour les autres. Donc, les choix de Lot vont conduire à plusieurs conséquences. La décision d'aller habiter dans les villes de la plaine, sous prétexte qu'elles étaient bien arrosées, cela aura donc des conséquences dramatiques pour lui et pour sa famille. Il sera confronté à des guerres. Au chapitre 14, on voit qu'il y aura des guerres et on va l'emmener captif. Et c'est Abraham, on va venir donner cette information à Abraham. On a pris Lot avec ses biens. Et Abraham va partir avec ses serviteurs pour aller libérer Lot. L'autre chose, au chapitre 19, on voit que Dieu, donc, comme il est dit là, hein, que Dieu va détruire Sodome et Gomorre parce que c'était une ville où il y avait vraiment de l'immoralité. Cette ville, il est vraiment parlé de toutes les atrocités qu'il pouvait faire. Immoralité sexuelle, etc. Et Dieu va décider de détruire cette ville, Sodome et Gomorre. Et donc, Lot se laisse influencer par les mœurs des gens de Sodome qui étaient donc des gens méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Lorsque vous allez lire ce passage du chapitre 19, on voit que là encore c'est Abraham qui va intercéder, qui Dieu lui dit qu'il va détruire Sodome, mais Abraham va intercéder, il dit mais s'il y a 10 justes, est-ce que tu vas détruire ? Non, je ne détruirai pas. Et s'il y en a 5 ? Non, non. Et Dieu, dans sa grâce, va délivrer Lot, mais parce qu'Abraham a intercédé pour lui. Et Lot, dans le chapitre 19, il va repartir avec sa femme, mais c'est bien difficile. Il va même dire aux envoyés, « Voilà, j'ai deux filles. » Il va dire aux gens de Sodome, « J'ai deux filles, ne faites rien à ceux qui sont là chez moi, mais j'ai deux filles. » Prenez-les, faites ce que vous voulez avec elles. Comment il a été influencé par la pensée de ces gens-là. Et il va partir avec sa femme, avec ses deux filles, mais sa femme attachée à Sodome, à Gomorre, à tous ces biens-là, elle va se retourner. On lui a dit, ne te retourne pas. Elle se retourne et elle est transformée en statue de sel. Et après, quelle atrocité! Ces filles, les deux filles, disent, voilà, nous ne connaissons pas d'homme. Voilà, allons vers notre père. Et elles vont coucher avec leur père. Il y aura cette relation incestueuse avec ces deux filles qui vont donner les Ammonites et les Moabites. Tout ça, les conséquences du choix de Lot. C'est dramatique, désastreux. Quelle triste fin pour cet homme donc, qui avait quitté donc, son oncle plusieurs années auparavant. Il avait quitté son oncle avec de grands biens. Ce jeune Lot avait peut-être peur pour son avenir. Il avait peut-être peur pour son avenir immédiat. Lorsque Abraham lui dit de choisir, ce qui est important pour lui, mais c'est qu'est-ce que je vais donner à manger tout de suite, là, à mes animaux. Et il va choisir la vallée luxuriante parce qu'il avait peur certainement pour son avenir. Et cherchant son propre intérêt, il s'est laissé tenter par cette plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, mais ce choix ne s'est pas avéré le bon. Vous savez, dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre, il parle de Lot comme étant Lot le juste. Ce qui sous-entend que Lot avait mis sa confiance en Dieu à un moment de sa vie. Et si Pierre n'avait pas parlé de lui, on aurait pu dire, mais non, mais Lot, voilà, il était perdu. Mais Pierre donne cet éclaircissement. Il dit Lot le juste. Lot avait mis sa confiance en Dieu et Abraham avait prié Dieu de protéger. Et Dieu a protégé Lot suite aux intercessions d'Abraham. Alors, est-ce qu'il avait mis sa confiance en Dieu lorsqu'il était encore avec Abraham ou après? Nous ne le savons. Mais Pierre dit de lui qu'il est Lot le juste. La peur et l'inquiétude face à l'avenir, la recherche de son propre intérêt, son égocentrisme, l'attrait aussi pour les choses qui frappent les yeux, donc cette vallée entièrement arrosée, ont été pour Lot un piège et la cause aussi de sa déchéance, malgré le fait qu'il ait mis sa confiance dans le Dieu d'Abraham. Mais cette foi FOI, était encore au stade, je dirais, embryonnaire. Il avait mis sa confiance en Dieu, mais il n'avait pas une foi qui était vraiment affermie. Et il s'est laissé attirer, on va dire ça dans le langage d'aujourd'hui, il s'est laissé attirer par le monde. Il s'est laissé attirer par tous les plaisirs du monde. Parce que quand vous voyez Sodome et Gomorre et vous le comparez à la vie aujourd'hui, c'est pareil. Et lui, ce qui était important pour lui, c'était d'aller là parce qu'il voyait cette vallée qui était pleine, fertilisée, etc. Mais les conséquences, je vous l'ai déjà dit, ce qui s'est passé pour lui. Lot, le juste, ça me fait penser à tous nos jeunes, tous nos enfants qui grandissent dans nos églises, qui un jour mettent leur foi en Jésus, qui confessent le Seigneur Jésus, et puis parce qu'ils ont peur de l'avenir aussi. Ils voient le monde et ils pensent que c'est dans le monde qu'ils vont trouver le salut pour eux. Ils vont trouver ce dont leur cœur a besoin. Et ils partent et puis après, les conséquences, on les voit pas forcément tout de suite, mais on les voit des années et des années après. Lot le juste, il a été sauvé, mais vraiment à la limite, comme il est dit dans le Corinthiens, il a été sauvé comme au travers du feu, il est dit. Limite, il aurait pu y rester aussi à Gomorrhe et périr avec les autres. Mais Dieu a eu compassion de lui et Dieu l'a délivré. Mais Dieu ne veut pas que nous ayons des vies vraiment misérables comme cela, que nous partions en pensant que dans le monde, ce sera beaucoup mieux, et puis avoir une vie vraiment triste, une vie voilà, malheureuse, parce que nous pensions qu'à côté, c'était beaucoup mieux. Je regardais sur le site du magazine Le Point, il est dit qu'en France, un jeune sur deux se sent angoissé et un sur trois éprouve de la colère lorsqu'il pense à son avenir. Et ce sentiment devient de plus en plus précoce, il est dit. Ils ont observé que d'abord, c'était chez les jeunes actifs. Il y avait ce sentiment d'angoisse par rapport au travail, qu'il était difficile de trouver du travail, il y avait ce sentiment de colère. Et ils voient que de plus en plus jeunes, quand ils sont étudiants, et même maintenant quand on consulte les collégiens, les lycéens, il y a cette peur, il y a cette angoisse par rapport à l'avenir. Et de plus en plus, on entend les jeunes qui disent « Moi, je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir d'enfants » parce qu'ils ne voient pas d'avenir pour eux. La peur de l'avenir, le manque de confiance ou le peu de confiance en Dieu est source de tentation pour nos jeunes qui grandissent donc dans nos églises et dans les familles chrétiennes. Nos jeunes, frères et sœurs, sont confrontés aux mêmes problèmes que les autres de leur âge. Il ne faut pas penser que ce sont des gens qui sont... Non, ils sont confrontés aux mêmes problèmes qu'eux. Et il y a aussi pour eux, parce qu'ils entendent, ils voient, la peur aussi de l'avenir. Et c'est pour cela que Dieu nous met en garde, que Dieu les met en garde aussi. Il dit que dans ce qui est écrit, c'est écrit pour notre instruction. Il dit ces choses qui leur sont arrivées pour servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Tout ça, l'histoire de Lot, l'histoire d'Abraham, tout ça que nous avons là, c'est pour notre instruction, pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui est debout, il est dit dans 1 Corinthiens 10, celui qui est debout, prenne garde de tomber. La peur de l'avenir et un manque de foi en Dieu attire nos regards vers le monde. Lot a été attiré par Sodome avec la plaine du Jourdain entièrement arrosée. Il s'est laissé tenter par ce qu'il voyait. Et nos jeunes aussi et autres chrétiens mal affermis sont attirés par les plaisirs du monde. Chacun cherche à profiter de la vie sans se soucier de savoir ce qu'il veut faire, si ce qu'il veut faire est approuvé ou pas de Dieu. Mais c'est un piège que tend l'ennemi pour éloigner le chrétien de Dieu. Et malheureusement, beaucoup tombent dans ce piège. Un peu comme le fils prodigue dans Luc chapitre 15, qui demande à son père la part de son héritage. c'était pas assez bien chez son père. Et il part loin. Il va dilapider tout ce qu'il avait. Il va vivre un peu, vraiment faire les pires choses. Jusqu'au point où il va se retrouver avec les cochons, en train de donner à manger aux cochons. Et il va dire, mais chez mon père, c'est mieux d'être serviteur chez mon père que d'être là. Et il rentre en lui-même. Il dit, c'est pas possible. Je vais me lever, je vais retourner vers mon père. Je lui dirai, mon père, prends-moi comme serviteur chez toi. Combien de nos jeunes, c'est un peu comme cela, qui pensent que oui, la maison du père, il y a trop de contraintes, il y a trop de ceci, trop de cela. Et puis ils partent, ils vont dans le monde, ils vont jouir des plaisirs du monde. Et puis il se retrouve dans des situations, le fils prodigue avec les cochons, Lot, là, il était là avec toutes les choses perverses dans son temps. Voilà. 1 Jean chapitre 2 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La peur de l'avenir a poussé Lot aussi à avoir une vie centrée sur lui-même, et ça nous pousse aussi à avoir une vie centrée sur nous-mêmes, cherchant nos propres intérêts. Et on se pose pas la question des conséquences, même si on dit, mais attention, on le dit, attention, si tu prends cette voie-là, il y a des risques. Voilà ce qui risque d'arriver. Non, on veut rien entendre, et puis on prend sa décision, on va vivre avec un inconverti, on va faire voilà tout ce que vous voulez. Mais le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, et on avertit, on le dit à nos enfants, on les avertit, et puis après les conséquences, c'est des années après qu'on les voit. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, oui, le Seigneur avertit. Il dit, n'ayez pas peur de l'avenir. Et ne vous laissez pas tenter par toutes ces choses-là. Ayez confiance en moi. Donc, Dieu va manifester sa grâce envers Lot, malgré son éloignement. Pierre dit qu'il est Lot le juste dans 2 Pierre chapitre 2. Alors je vais lire ce passage. Alors 2 Pierre chapitre 2 verset 6 à 10. Donc dans ce chapitre qui parle des faux docteurs que Dieu va juger, et il donne plusieurs exemples que Dieu ne reste pas indifférent à cela et que Dieu y juge les impies. Il dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 6, Il dit, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Donc le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Vous voyez, donc l'apôtre Pierre nous dit, voilà, que chaque jour il était tourmenté par ce qu'il voyait. C'est vrai que lorsqu'on a grandi avec une certaine éducation, on sait il y a des choses c'est bien, il y a d'autres c'est pas bien. Et puis quand on va dans le monde, on va avec des gens qui ne partagent pas cette moralité. Il était complètement tourmenté jour après jour à cause de tout ce qu'il voyait là dans Sodome et Gomorre, mais ça avait aussi une influence sur lui. Donc ne laissons pas, frères et sœurs, ne laissez pas, chers jeunes, n'ayez pas peur de l'avenir. N'ayez pas peur de la situation difficile du moment. Détournez vos regards de votre Seigneur pour c'est aller à votre perte. Si vous détournez votre regard de lui, c'est aller à votre perte. Mais bien au contraire, tournez-vous vers lui pour attendre de lui votre secours. C'est lui qui nous dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Ceux du monde ont peur de l'avenir, ils sont angoissés, mais vous, soyez sans crainte. Faites comme Abraham, placez entièrement votre confiance en Dieu pour votre salut, mais aussi pour votre avenir immédiat. Ne vous souciez pas de ce que vous allez perdre, car votre Dieu peut faire pour vous, il est dit, infiniment, au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. Dans les versets 12 et suivants, on voit le choix d'Abraham. Abraham, il a fait le choix de continuer à faire confiance en Dieu pour son avenir immédiat. Et cette confiance s'est manifestée de plusieurs manières. Déjà, donc il laisse à Lot le soin de choisir là où il voulait aller. Il récupère le lieu le moins fertile, sachant qu'il pouvait perdre aussi ses animaux. Mais il fait confiance à Dieu. Il savait qu'il avait placé sa confiance en l'Éternel et que celui qui avait fait des promesses, qui lui avait dit de partir, que Dieu était fidèle pour prendre soin de lui. Et l'autre chose, c'est qu'il ne s'est pas inquiété pour son avenir immédiat, car il savait que Dieu pourvoirait à ses besoins. Et donc, ce que le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, Abraham l'avait déjà fait par la foi. Il ne s'est pas inquiété. Et dans les versets 14 à 18, là, on voit que c'est Dieu qui encourage Abraham en lui réaffirmant ses promesses. Abraham, il était certainement triste à cause de cette séparation. Mais pour le consoler, Dieu lui-même va lui apporter une parole donc de consolation. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Dieu vraiment encourage Abraham, dit, « Tu es resté là, mais ce pays, je vais te le donner à toi et à ta postérité. » Abraham avait besoin d'être encouragé. Donc Dieu lui demande de lever les yeux du lieu où il est et de regarder autour de lui. Tout ce qu'il voit, il dit, ça sera à toi. Dieu lui dit aussi qu'il rendra sa postérité comme la poussière de la terre. Alors que Abraham, il a accepté de se séparer de son neveu. Son neveu, c'était un peu son héritier aussi, parce qu'il n'est pas d'enfant. Donc son neveu, Lot, c'était son héritier, mais il a accepté que Lot parte. Il a accepté de perdre ce qu'il avait de plus cher. Mais Dieu lui fait la promesse qu'il va avoir une postérité. Donc les promesses que Dieu a faites à Abraham devaient s'accomplir dans le futur. Sans avoir vu leur accomplissement, Abraham a mis sa foi en la parole de Dieu. Donc, comme Abraham, nous sommes encouragés, même si nous sommes attristés par telle ou telle situation, levons les yeux, frères et sœurs, et regardons avec les yeux de la foi tout ce que Dieu nous a promis. Souvenons-nous des choses qui se sont déjà accomplies dans nos vies et croyons que sa parole s'accomplira pour nous aussi dans l'avenir. La dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est quelques versets. Dans Proverbes chapitre 23, il est dit « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Aux captifs de Babylone, l'Éternel leur dit par la bouche du prophète Jérémie, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Le Seigneur Jésus, il a dit à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » L'apôtre Paul aux Philippiens, alors qu'il était dans une situation très difficile, il dit « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'ajouter en toutes choses. » Il dit « C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, il dit « Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Donc face aux besoins immédiats, l'apôtre Paul mettait donc son espérance aussi en son Dieu. Il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc ayons confiance en Dieu et en sa parole. Et le Seigneur nous dit « Levez les yeux. » Levons les yeux, frères et sœurs, et voyons tout ce que le Seigneur a en vue pour nous. Il est là avec nous. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il est dit dans Nombre, chapitre 23, « Ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Donc, si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour que nous soyons des gens tristes. Non, il nous a donné une espérance. Il a un avenir pour nous. Donc, à nous de saisir tout cela par la foi. Et le Seigneur disait aussi à Habacuc, il lui donne des prophéties, il lui dit « Voilà ce qui va arriver. » Et il lui dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Après, il continue, il dit « Mais le juste vivra par la foi. » Donc, à nous, frères et sœurs, de saisir par la foi, de lever les yeux, de regarder ce que Dieu a en vue pour nous et de mettre notre foi en notre Seigneur, dans sa parole. Et si telle promesse qu'il nous fait, lorsque nous lisons sa parole, il touche notre cœur avec une promesse, nous gardons cette promesse-là et nous attendons son accomplissement. Et Abraham, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas vu tout de suite les choses, mais il a saisi par la foi et il a continué à faire confiance à Dieu. Donc que le Seigneur nous aide, qu'il nous encourage à continuer, faire confiance à Dieu, c'est aussi avoir confiance en l'avenir. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas avancer comme si on avance dans le flou. Non, le Seigneur nous donne une espérance, le Seigneur nous donne un avenir. À nous de saisir cet avenir. En tout cas, je peux vous dire, moi je l'ai saisi et je ne suis pas déçu. À vous aussi de le faire. Et je prie vraiment pour les jeunes, que le Seigneur vous bénisse. À tous les enfants, pensons, prions pour eux, parce qu'ils sont là, ils sont confrontés à tout cela. Mais le Seigneur a un avenir aussi pour chacun de vous. Donc à vous d'y croire et de mettre votre foi donc en sa parole. Et c'est les paroles qu'on a lues dans le psaume chapitre 1, dans Jérémie chapitre 17 que nous avons lues. sont là aussi pour nous encourager. Méditez la parole jour et nuit. Saisissez ce que le Seigneur vous dit par la foi et vous allez voir que vous ne serez pas déçus. Donc oui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et puis à nous d'avancer avec lui et que son nom seul soit béni. Alors j'aimerais vous demander de tenir debout. Voilà, et puis nous allons prier pour terminer ce culte et que le Seigneur vous bénisse. Merci notre Dieu pour ta parole, merci parce que tu nous as laissé tous ces faits, ces histoires qui ont réellement existé de ces hommes et de ces femmes de foi qui sont là pour nous servir d'exemple, c'est là pour notre instruction. Et merci, Seigneur, pour tout ce que nous apprenons à travers leur vie. Et nous te prions, Seigneur, que nous tous qui avons connu ta parole, que nous puissions rester attachés à toi, que nous puissions toujours te faire confiance pour notre avenir. Ne pas sombrer dans l'inquiétude, ne pas sombrer dans la peur, mais non, que nous puissions saisir par la foi tout ce que tu as en vue pour nous, sachant que en ayant la vie éternelle, tu nous donnes aussi donc cette assurance qu'un jour nous serons avec toi et que tu pourvoiras déjà dès maintenant à tous nos besoins. Oui, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Béni sois-tu, notre Dieu, sois glorifié. Bénis les enfants de l'Église, ceux qui sont à la garderie, à la classe de la Bible, les jeunes. Nous te demandons, Seigneur, qu'ils puissent saisir par la foi ta parole, tes promesses, mettre leur confiance en Jésus-Christ, qu'ils n'aient pas peur de l'avenir, que c'est toi qui es leur avenir. Nous te demandons aussi de toucher les cœurs de ceux et celles qui ont connu ta parole un jour et qui sont partis dans le monde comme ce fils prodigue. Ils sont là en train de peut-être se tourmenter jour et nuit par rapport à ce qu'ils voient, mais ils se sentent comme enchaînés. Mais toi, notre Dieu, tu peux les délivrer. Et nous te prions pour eux, nous te prions de les ramener à toi, de les ramener dans ta bergerie. S'ils sont comme Lot le juste, s'ils ont mis leur foi en toi, Seigneur Dieu, tu ne vas pas les laisser là dans le bourbier, tu ne vas pas les laisser là où ils sont, tu pourras les ramener. Que dans ton esprit puisse agir en chacun d'eux et qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes comme l'a fait le fils prodigue. Et qu'ils puissent vouloir revenir dans la maison du Père. Donc nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, de nous aider à continuer à avancer, à lever les yeux toujours fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre rémunération, et que nous puissions avoir une foi qui soit enracinée et fondée en lui. Donc accompagne-nous, merci encore pour toutes choses, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.